Peterbrook, on est au TNP à Villeurbanne. Il y a une carte blanche à vous et Marie-Hélène Estienne. Avant de parler de why et de ce qui se passe ici, j'aimerais bien juste revenir un tout petit peu sur le printemps, l'été, ce qu'on vient de vivre, parce que c'est une période un peu particulière. Et je pensais au message, votre fille Irina Brooke, pendant le confinement, a posté des petits messages sur Instagram de vous, que vous lui envoyez. Et il y en avait un, c'était: le confinement est un don du ciel, il balaye l'inutile et dans toutes les formes et laisse apparaître l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant le confinement?
Je crois que vous avez tout dit déjà pour moi. Parce que c'est le mot l'essentiel. J'aime énormément dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait, qu'on garde le sens de ce qui est utile et ce qui est inutile. Et je vois que dans nos journées, nous passons trois quarts de la journée, trois quarts de notre énergie, qui après la nuit, il y a une bonne énergie pour aborder la journée. Et ça se perd dans des activités, des réactions, des discussions inutiles. Et j'aime, dans notre travail, c'est ce qui est pour nous le guide. On essaie de faire avec une pièce de théâtre, quoi que ce soit, quelque chose qui, pour les spectateurs, puisse être, pas peut-être pour tout le monde, on est très modeste avec ça, mais pour certaines personnes, ils gardent quelque chose quand ils sortent du théâtre et en rentrant, ils sentent que la soirée n'était pas tout simplement une distraction, une soirée soi-disant culturelle. Ça, c'est vraiment avec une pièce de qualité. Il y a quelque chose qui est ce qu'on appelle les restes. Et le confinement a fait ça sans le théâtre. C'était tout simplement des conditions où, dans la journée, en anglais, on dit au printemps, il y a le spring cleaning. Et ça, c'est vraiment le moment où, dans la maison, on fait un grand nettoyage. Et si on a en haut, s'il y a une pièce, une mansarde, quelque chose comme ça, c'est le moment de voir ce qui s'est accumulé et la quantité de choses qu'on peut jeter. Et pour moi-même, je déteste garder des papiers, tout qui est inutile. Alors j'adore le moment où on peut jeter des choses dans la poubelle. Et le confinement nous a donné cette possibilité de reconnaître que grâce à des conditions déplorables et encore pires pour tout le monde, il y a toujours dans ce qui est déplorable et ce qui est le pire, il y a juste un autre aspect, un petit rayon. Et là, le rayon qui traversa était cette nécessité d'être soit ne rien faire, tranquillement occuper des choses nécessaires comme les choses de la maison, la nourriture, les enfants, ou quand il s'agissait d'une activité soi-disant culturelle, trois quarts des choses énormes, inessentielles sont balayées.
Il est 20h sur France Culture et pourquoi faire du théâtre? C'est la question qui ouvre le spectacle de Peterbrook. Why? Pourquoi? Point d'interrogation. Et c'est beau de se poser la question à 95 ans, comme au premier jour, avec malice, profondeur et joie de trouver chaque fois des réponses avec les acteurs et la vie sur scène. Dans Why, mise en scène avec Marie-Hélène Estienne, Peterbrook rend hommage à la figure de Meyerhold, qui dans les années 1920 en Russie, savait que le théâtre était une arme dangereuse. Il faisait arriver la révolution sur scène. Il faisait la sienne, plus de rideaux, les grandes portes ouvertes et les tickets gratuits. Brooke l'appelle le martyr du théâtre, puisqu'il sera victime des purges staliniennes en février 40. Dans Why, Dieu créa le théâtre pour soulager les humains de l'ennui. Il y a beaucoup d'humour à faire apparaître un sentiment dans un corps, à se moquer du messager qui n'aura qu'une ligne à dire sur scène, mais qui doit exister. Peter Brook est toujours aussi passionné et ne voit au théâtre qu'un mot problématique, la répétition, puisque la vie ne peut jamais se répéter. Son dernier livre s'appelle « À l'écoute ». Il parcourt ses expériences liées au son et à la musique, son amour du musical, son expérience à Broadway dans les années 60. Peter Brook, né en 1925, a aimé son confinement, qui a balayé l'inutile. Mais l'inutile, il l'a balayé depuis longtemps, puisqu'il sait mieux que personne donner forme, à partir d'un silence et d'un espace vide, à tout ce qui vit. Nous sommes avec le metteur en scène Peter Brook pour une carte blanche à Villeurbanne au TNP, Théâtre National Populaire, avec sa collaboratrice, complice depuis plus de 40 ans, Marie-Hélène Estienne. Le spectacle Why, c'est du 24 au 27 septembre. Le dernier livre de Peter Brook s'appelle « À l'écoute, réflexion sur le son et la musique ». C'est aux éditions Odile Jacob. Et puisque la musique est si importante dans son parcours, il y en aura en studio. Avec nous, Rosemary Stanley, qui ne nous quitte plus. Elle était avec nous la semaine dernière, avec son duo Birds on a Wire. Cette fois-ci, c'est le projet Schubert in Love, avec l'ensemble Contraste. Le disque est sorti le 11 septembre. C'est Tous en scène sur France Culture. On commence dans le foyer du théâtre. Peter Brook nous attend à la pause, entre deux répétitions, et on parle de ce printemps si singulier, ce confinement. Ça me fait penser à une phrase qui est en exergue de votre livre « À l'écoute ». Vous avez cité cette phrase et vous dites « ça m'accompagne depuis 50 ans ». Le passé appartient à l'histoire, l'avenir au mystère, le présent est un cadeau et c'est pourquoi on l'appelle le présent.
C'est ça.
C'était du présent.
Oui, oui. Parce qu'en français, on peut utiliser le mot présent avec les deux sens, comme en anglais, un cadeau, a present. Je te fais pour ton anniversaire un cadeau. Ça s'appelle le présent, the present. Et en français, si je dis « j'apporte pour toi un présent », on peut le comprendre aussi. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a accompagné? Vous avez lu, vous avez écouté de la musique, vous avez écrit pendant ce printemps?
Non. On continuait à tout simplement, toujours avec Marie-Hélène, on faisait des petites choses utiles. On a fait avec Catherine Hunter et Marcello, on fait des petits bouts, des pièces de Beckett. On a enregistré, on les a mis sur le site des bouffes. On parlait à l'époque de ce qu'on pouvait faire parce qu'on ne savait pas que tout serait fermé aussi longtemps. Alors on a préparé des choses avec Marie-Hélène. Marie-Hélène a ce merveilleux sens du langage et Actes Sud voulait publier la version qu'on avait préparée sur une base de Jean-Claude Carrière sur la tempête. Alors, les activités de cet ordre étaient très utiles.
Et cette question qui est au centre de Why, que vous allez présenter là à Villeurbanne, au TNP, pourquoi faire du théâtre, elle date de quand pour vous? Et est-ce qu'il y a des moments où elle a été plus présente que d'autres?
Je crois que le moment où on essaie d'exprimer avec les mots, on est en grand danger de perdre contact avec l'essentiel. Et je crois que cette question, jamais formulée, était avant, depuis le tout début. Le tout début, quand j'étais très jeune, j'avais une immense énergie que je voulais faire une seule chose. Je connaissais pas ce que c'est que cette chose qu'on appelle le monde. Je voulais moi-même pas lire des livres, mais mais explorer. Alors j'étais, heureusement, né un chercheur explorateur. Alors, depuis très jeune, je voyageais le plus souvent possible. S'il y avait la possibilité, grâce à le soutien d'une activité de notre travail, sinon, pour le petit argent que j'ai pu mettre à côté, prendre le train, prendre l'avion. Ah, j'ai toujours entendu, quand j'avais 16 ans, de l'Afrique, du Moyen-Orient, du Japon. Et ah, oui, il y a quelqu'un qui m'invite, je peux y aller. Je peux aller au Brésil parce qu'il y a une invitation d'un festival d'aller visiter et peut-être parler comme nous faisons maintenant. Alors pour moi, cette possibilité d'explorer était telle qu'en même temps, je ne pouvais pas, quand je commençais à travailler dans cette chose qui m'a attiré, la mise en scène au théâtre, tout de suite essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que ce théâtre. J'étais très jeune, engagé à Covent Garden, à l'opéra. Et donc c'était une chose très osée de la direction, mais pour moi fascinant, parce que j'allais voir des opéras et je trouvais la plupart du temps que c'était de la merde. Et je suis allé, grâce à ça, même dans les autres pays, je suis allé en Allemagne, même en Russie, au Bolshoï, et ce que je voyais, ce n'était qu'une espèce de festival de la vanité des décorateurs, ceux qui faisaient les costumes, des chefs de chœur, même de chefs d'orchestre, et commençaient à voir. C'est pour ça qu'une des premières mises en scène que j'ai faites, qui a heureusement toucher les gens, était, j'ai fait une version de Carmen et en étudiant le point de départ de Bizet, la petite nouvelle, et puis en écoutant toutes sortes de variantes, en le voyant, je voyais que l'essentiel a été perdu, mais pas pour toujours. En reprenant ce travail, sans permettre que le chanteur arrive déjà avec tout en place, mais d'avoir des premières répétitions avec que le piano et les quelques interprètes, sans que juste les quelques interprètes, comme nous sommes maintenant pour parler, parce que maintenant on parle et grâce au micro, dans l'intimité. Et quand on fait ça avec un opéra, c'est très étonnant qu'on touche à l'humanité des personnages qui sont là grâce aux musiciens, aux compositeurs. Et on a vu que même dans les partitions, si on enlève toute la décoration dans Bizet, si on enlève tout ce qui a exigé le grand chœur, le grand orchestre, c'est 1000 fois plus touchant. Alors avec ce genre d'aventure, j'étais à Stratford, Royal Shakespeare, et je voyais tout de suite à quel point ce qui se passait était inutile, et je commençais à me poser des questions absolument nécessaires. Pourquoi ? Quand on a un décor, pourquoi est-ce qu'on n'est plus touché? Comme dans la vieille architecture grecque, quand il y a 3 piliers. Et s'il y a 4 piliers, c'est comme dans la musique, un 4e note peut complètement détruire l'harmonie. Alors là, ces lois de proportion m'avaient tellement touché. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait une étude de proportion dans toutes les formes de proportion et à analyser la différence entre une très beau visage, une belle femme comme celle que je vois maintenant devant moi, qui me pose des questions, les proportions et qu'il y a, on peut réduire ça à des calculs scientifiques et mathématiques. La relation entre un 5 et un 3, avec des interventions de 1 et même de 2,5, toute cette formule crée, comme la musique, quelque chose qui est soit de l'harmonie, soit discordant. Alors, c'est avec ça, c'est une longue réponse, je regrette votre question, mais c'est ça qui très tôt m'obligeait non seulement de chercher partout, mais d'expérimenter moi-même et de chercher moi-même.
Et vous parlez de voyage et de l'importance d'avoir voyagé.
Oui.
Depuis le début de l'année, là, de la saison, on essaie justement d'entendre des voix de théâtre d'un peu partout dans le monde pour prendre des nouvelles. Et puis, on a reçu pas mal de messages. Et là, on a reçu des messages pour vous de quelques endroits du monde. Je vous fais écouter le premier. C'est un comédien qui s'appelle Timo Torika et ça vient de Helsinki en Finlande.
J'ai eu deux influences majeures dans mon voyage théâtral, Tadeusz Kantor et Peter Brook. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ils ont tous les deux agi sur moi comme des phares majestueux dont les lumières m'ont toujours guidé, surtout quand la mer a été agitée. Quand j'avais 10 ans, j'ai vu une photo qui m'a bouleversé et qui a complètement changé l'image que j'avais du théâtre. C'était une photo du songe de nuit d'été mis en scène par Peter Brook. Le décor était tout blanc et les seuls objets visibles étaient des balançoires. Jusque-là, j'avais pensé que le théâtre est quelque chose de lugubre qui se passe dans un lieu sombre et tout d'un coup, c'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Brook a inventé un langage théâtral universel, comme s'il avait absorbé toute la tradition théâtrale du monde dans son théâtre. Cette pureté, cette rigidité, cette simplicité, en même temps, la capacité de se transformer selon le temps, m'ont toujours interpellé. En l'an 2000, j'ai vu ici à Helsinki son spectacle « Le costume ». C'était une période où presque dans chaque spectacle, il y avait des vidéos, des effets spéciaux, des sensations, mais pas toujours de vie. Et là, Brook nous mène vers les origines du théâtre. Raconter des histoires, c'est ça qui compte, raconter des histoires. C'était encore une fois comme si quelqu'un avait allumé la lumière. En plus, son écriture sur le théâtre a beaucoup transformé ma façon de penser. Il a écrit avec la même simplicité qu'il a fait ses mises en scène. Il n'est pas juste un théoricien. Il y a un lien direct entre son écriture et son art. Sur mon bureau, j'ai toujours quelques livres que je relis encore et encore. Un de ces livres est « The Shifting Point », « Les points de suspension » par Peter Brook. Là, il y a une phrase qu'on pourrait contempler infiniment. Hold on tightly, let go lightly. La prise et la capacité de lâcher, voilà tout. La question que j'aimerais poser à Monsieur Brook, est-ce que dans votre vie, il y a eu un moment ou des moments où vous avez complètement perdu votre foi dans le théâtre, où vous avez pensé qu'il n'y a aucun sens à en faire? Et si oui, comment avez-vous survécu à ça?
Comment vous répondriez à Timo Torika?
Pour moi, c'est très très simple. Je suis très touché par tout ce qu'a dit ce monsieur-là. Mais l'essentiel est que tout est dans le présent. J'ai donné cette interview, je crois, dans le passé. Et le passé, comme dit le mot passé, est passé. Ça n'existe pas. Et pour moi, dans le présent, à ce moment-là, on cherche à être au service de ceux qui cherchent à s'exprimer à ce moment-là. Alors je n'ai jamais, même avec des compliments très touchants et sincères, je ne l'ai jamais cru. Je sais que si j'ai fait un bon travail, si à l'intérieur du travail, il y a quelque chose que les gens disent, « Oh, comment est-ce que tu as trouvé cette belle invention ?» Je dis poliment, « Merci, mais j'ai l'impression que jamais dans ma vie, je n'ai rien inventé, mais qu'il y a des choses autour de nous à chaque instant qui sont sans forme, qui sont comme des vibrations sur toute la planète, qui sont toujours là, et le moment où pas des choses incompréhensibles, il y a, on peut dire comme un véhicule, quelque chose qui est prêt pour que ça rentre dans la vie. Alors, le grand théâtre Shakespeare, par exemple, on ne peut pas comprendre pourquoi et comment ça se fait, mais il y a tant de mots, de phrases qui résonnent et qui nous touchent directement. On ne peut pas expliquer ce que ça veut dire être touché, mais on a le goût, on a une expérience. Subitement, je suis touché. Dans le théâtre, ça s'exprime dans un public par un moment de silence, un moment de suspension. Et c'est pour cela que le shifting point est vraiment sur ça, qu'il y a à chaque instant quelque chose qui bouge. On peut appeler ça un point de vue ou un contenu, peu importe. Il y a quelque chose qui est en mouvement et en mouvement d'une rapidité, comme la rapidité de la lumière. La rapidité de l'air, on ne peut pas le saisir. On ne peut pas laisser, ah, j'aime beaucoup ça, je vais me mettre dans ma poche. Non. C'est de telle rapidité, même les enfants parfois voient sur terre, par terre, un ombre et disent, oh, j'aimerais avoir cette ombre. Et on a vu des gosses qui essaient de rouler les ombres pour les mettre dans la poche. Mais on ne peut pas. L'ombre est là. Il est parti. Alors, dans Why, la question est posée, pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre? Et on évoque tous ceux qui, depuis toujours, ont posé cette question, tout simplement pour le rendre vivant. Et on voit, on ne parle pas dans le spectacle, mais inséparable de Why, il y a Why not? Pourquoi pas? Et alors, oui, on dit que ça c'est pas bon, et alors, ça c'est bon, et alors, tout ça sont la vie en mouvement. Parce que tout ce qu'on peut dire comme généralisation, c'est et le shifting point, c'est que c'est toujours en mouvement.
J'ai failli oublier d'envoyer ce message, mais hier soir, il y a eu encore des affrontements à Beyrouth, et ce matin, un incendie. Et avec tout ce qui se passe, je n'arrive pas à m'empêcher à penser à la présence des acteurs de Peter Brook quand je les ai vus à Beyrouth, cette présence qui propose un apaisement du temps et de l'espace, un apaisement dont on a beaucoup besoin maintenant ici, un apaisement qui se présente comme une évidence et une nécessité du théâtre maintenant plus que jamais.
C'était la voix d'Omar Abiazar de la compagnie Zoukak à Beyrouth qui nous laissait un message pour Peter Brook. On va donc rester dans la suspension et dans l'apaisement. En studio, on retrouve l'ensemble Contraste avec Rosemary Stanley. Ensemble, ils retraversent l'œuvre de Schubert. Ça s'appelle Schubert in Love. C'est sorti le 11 septembre. Ils partent en tournée en France. La prochaine date, ce sera le 9 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines. En studio avec nous, François Aria, Laure Sanchez, Arnaud Tourette, Joanne Fargeau et Rosemary Stanley. Le premier morceau, c'est...
C'est Stanchen.
Répétition n'a pas encore repris, on retrouve Peter Brook à Villeurbanne, dans le foyer du théâtre au TNP. Dans Why, vous parcourez un peu donc cette question, pourquoi on donne notre vie au théâtre et puis comment faire apparaître la vie sur scène. Et
y a un comment mot un peu... faire apparaître, comment ne empêcher d'apparaître. Jamais dans l'histoire de l'homme, même dans les grandes religions, dans tout, il n'y a jamais quelqu'un qui a inventé ce qui s'exprime. Je crois quand même, dans toutes les religions qui parlent de cette même base, il n'y a personne qui dirait ah, « nous avons inventé l'histoire du Christ ». Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, On tout peut tout apprendre par le conteur. Et ça, j'ai vu en Afrique, en Inde, le conteur qui a une histoire et le besoin de la partager avec 50 personnes, 200 personnes, peu importe. Et pour le faire, essayer de le rendre aussi vivant au moment même. Alors pour ça, j'ai vu des conteurs en Afrique qui avaient un petit bâton, rien d'autre. Mais ce bâton peut devenir une armée qui marche. Ça peut être un homme qui frappe sa femme, un homme qui tire avec un tir à l'arc, tout. Et on peut suggérer, parce que le mot évoquer, suggérer, tout ce qu'on appelle l'art du théâtre, ça vient de cette nécessité. Si on est touché par une histoire, il faut le partager. On n'a pas le choix. Ce n'est pas à nous. Alors, on essaie de trouver les moyens de partager. Moi, pour moi, la plus grande expérience de ma vie était quand mes deux enfants étaient petits. Et chaque nuit, j'allais les voir au lit et je reprenais l'histoire. C'était toujours une histoire feuilleton qui passait. Et à la fin, si à la fin, ils disent « Continue, continue, ne t'arrête pas. » Je dis « Ah non, c'est l'heure d'éteindre la lumière, mais demain, je vais essayer d'aller plus loin. » Pour eux, c'était, mais pour moi aussi. Et pour moi, quand je revenais le lendemain, je découvrais au moment même, comme les enfants, je ne savais pas, il y a quelqu'un qui est sur une falaise, il a glissé, il tient par une racine suspendue autour d'un puits. Comment sortir? Alors je laisse les enfants en se demandant, mais comment est-ce qu'il va sortir? Mais moi-même, je ne savais pas et j'attendais avec la même impatience parce que quand je commençais à reprendre l'histoire, c'est l'histoire qui continue à se développer. Et sur ce passage, je reviens à ce que pour moi est l'essentiel. C'est bien de recevoir des prix et des compliments, mais en vérité, on est un peu honnête. On voit que c'est ce qui est toujours là. L'histoire cherche à se raconter encore et encore. Et ça, j'ai vu dans les villages où il n'y avait rien d'autre que le conteur, à quel point c'est à la base de tout. Et le vrai conteur n'a pas de moyens. C'est pour ça que je n'ai jamais cherché, on dit, ah, ce que vous faites, il y a la simplicité. Le mot n'était pas une recherche, c'était tout simplement de voir qu'il n'y a rien de nécessaire que pour l'histoire continue à se dérouler avec les moyens du bord.
On va écouter une voix d'un autre complice assez inséparable de votre travail, c'est Jean-Claude Carrière, qui justement raconte comment... Vous ne savez pas forcément où tout ça va aller quand le travail commence.
Je crois que la force principale de Peter, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. On dit ça de beaucoup de metteurs en scène, il sait exactement ce qu'il veut. Peter, pas du tout. Quand il commence une mise en scène, il cherche ce qu'il va devoir à la fin réaliser. Et cette mise en scène, c'est-à-dire son désir, ce qu'il veut, vient peu à peu. C'est un homme qui a comme principale qualité de n'obéir à aucune théorie, de ne suivre aucun chemin tracé à l'avance, et à chaque fois de découvrir le sujet qu'il a choisi au fur et à mesure qu'il le travaille. On dit souvent, et nous disons souvent ensemble, que les théories divisent toujours, on peut s'engueuler pendant des heures sur tel ou tel point théorique, alors que la pratique réunit. Quand on fait quelque chose ensemble, forcément, on arrive à trouver des liens entre nous. Alors Peter n'est pas un homme de théorie, il n'est pas non plus un homme d'érudition, de bibliothèque, il a sa culture bien entendu, qui est considérable, mais il n'est jamais tombé dans l'aspect livresque, dans le commentaire d'un un tel a dit que. Au contraire, il adore se moquer de ceux qui ont bâti des théories autour de la personnalité si discutée de Shakespeare. Il a écrit un très beau livre là-dessus, et il en prépare un autre. Et enfin, c'est quelqu'un qui correspond, peut-être, au sens de son mot en anglais. Brook, c'est un ruisseau. Et je l'ai souvent comparé, en moi-même, sans le lui dire, bien sûr, ne le lui répétez pas, qu'il est comme une source d'eau claire qui jaillit à un moment donné, comme un ruisseau, et qui va de terrain en terrain, et qui fertilise tous les terrains que cette eau rencontre. Oui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver où que ce soit, dans quelque endroit que ce soit, même s'il n'est pas question de préparer un spectacle, sans le voir autrement et sans le donner à voir aux autres d'une certaine façon. Les plus beaux souvenirs de ma vie sont peut-être de partir avec lui à 6 heures du matin en Inde, tous les deux, dans une voiture avec un chauffeur, sans savoir du tout où nous allions, et de parler, tout simplement, de nous arrêter quand nous en avions envie pour aller assister à un mariage, visiter une ruine. Et chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau. On ne sait jamais, quand on commence à travailler, ni où on va, ni quand ça s'arrêtera.
Mais Jean-Claude a tout dit. On parle exactement, on a deux langues qui marchent ensemble. Parce que quand il fait des textes, quand il fait des traductions de Shakespeare, il écoute, il ne cherche pas, comme font depuis Victor Hugo, tous les traducteurs de Shakespeare qui essaient d'inventer un langage complexe et pittoresque. Pas Jean-Claude. Il écoute la phrase en anglais et puis il trouve la phrase la plus simple et la plus pure qui puisse attraper le sens, l'essentiel. Et lui, il travaille. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'aujourd'hui, j'ai écrit, je ne sais pas combien, mais pas beaucoup de livres. Mais quand on vient me parler des livres, j'ai dit, vous savez, je vois qu'avec mes livres, que je ne voudrais pas que ce soit vu par des jeunes comme des choses obligatoires qui montrent comment faire, je voudrais tout simplement, aujourd'hui, pour un jeune qui a beaucoup de choses à faire dans la vie, pour mes livres qu'il lit, il ne lise que les titres. Et mon premier livre était, vous souvenez du titre?
Est-ce que c'est L'espace vide, c'est le premier?
Oui, L'espace vide.
Et le dernier, c'est À l'écoute.
Mais L'espace vide, on ne peut pas aller plus loin. L'essentiel est, comme on vient de dire, sur l'avantage de ce moment de confinement, de chercher à enlever tout ce qui nous empêche d'avoir un espace vide. Parce qu'un espace vide est là où résonne le silence. Et mon tout dernier, Playing by Ear, Jean-Claude l'a traduit, pour moi c'est mieux en français, À l'écoute. Parce que ça revient à grande phrase de Shakespeare, « The rest is silence », pour sentir l'espace, le vide de l'espace, les points qui le traversent à droite et à gauche, il faut être et renouveler tout le temps l'écoute. Et ça, dans le livre, ça traverse le monde de la musique, de l'opéra, de l'écriture dont parle Jean-Claude, mais c'est, on peut si facilement se perdre de mille manières différentes et l'écoute est de moins en moins vivant. Et ça revient et puis, ouf, cet espace vide de l'écoute est bloqué. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi.
Et d'ailleurs, le livre, c'est Réflexions sur le son et la musique, mais ça finit par deux mots qui sont les plus importants pour vous, c'est faites silence.
C'est ?
Faites silence.
Oui, oui, oui. Oui, ce que j'ai vu dans un temple japonais.
Dans le spectacle Why, mis en scène par Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, on croise la figure de Meyerhold, metteur en scène russe, mort en prison en février 1940, qui, à l'opposé de l'approche psychologique de Stanislavski, avait opté pour une méthode physique et cherchait à révolutionner la scène, à ouvrir à un plus large public. Il avait abandonné rideaux et coulisses et rapproché scène et spectateurs. Jean-Claude Carrière se moquait un peu, enfin pas se moquait, mais riait en disant que vous n'étiez pas quelqu'un de théorie, que les théoriciens, ça peut faire rire parfois, et que vous étiez quelqu'un de la pratique, de l'expérience, voilà, de la vie. Dans Why, il y a beaucoup de choses qui traversent le spectacle, voilà, sur le théâtre, différentes méthodes, et on parle de différentes figures russes, de Stanislavski. C'est aussi un hommage à Meyerhold. Est-ce que dans le chemin de Meyerhold, il y a des choses qui ressemblent à votre chemin ou vos envies, oui, dans la révolution qu'il a voulu opérer ?
Oui, je ne connaissais pas Meyerhold, mais dans ce qu'on a dans la pièce, je retrouve quelque chose que j'aurais pu dire à l'époque moi-même ou aujourd'hui. C'est plus qu'une coïncidence, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et je suis très, très reconnaissant que ce soit possible. Et aujourd'hui, je trouve dans Why on commence avec les dons qui viennent du ciel, qui nous guident, et que ce que le Créateur a donné. Et pour moi, la chose que je reviens, je ne l'ai pas écrit. De plus en plus souvent, ce qui nous a permis de traverser toutes les horreurs de l'histoire. Si vous pensez à choses horribles et qui sont en train de recommencer, qu'est-ce qui sauve nous tous? Qu'est-ce qui sauve qu'on a reçu ce don du rire, et que dans les pires des conditions, il y a quelque chose, on peut pleurer, on peut lamenter, mais il y a toujours cette possibilité, par un petit sourire, de trouver quelque chose qui nous permet à recommencer. Alors, avec ça, on peut échanger un petit sourire.
Un sourire aux lèvres, on écoute alors le deuxième morceau extrait du disque Schubert in Love avec en studio Rosemary Stanley et l'ensemble Contraste. Et Arnaud Torrette, vous nous présentez le deuxième morceau.
Le deuxième morceau évoque l'eau qui coule d'une rivière, et on a cherché à peut-être amener cette eau qui coule d'une manière un petit peu différente, avec une instrumentation assez originale, avec des instruments peut-être inhabituels chez Schubert, notamment la guitare, peut-être la contrebasse, et puis évidemment la voix de Rosemary qui nous raconte cette belle histoire.
Auf dem Wasser.
Et l'eau qui coule, c'est parfait pour Brook, qui veut dire ruisseau en anglais.
Der Wind gleitet wie Spinner der Wand.
Peter Brook, je vous propose d'écouter une autre voix que vous connaissez bien, celle de Nahal Tajadod, parce que dans le livre « À l'écoute », vous parlez de l'importance du son et de la musique et de ses expériences dans votre travail. Et elle raconte quelque chose voilà, sur l'importance du son dans votre travail.
Ma mère est auteure de théâtre et elle a toujours travaillé sur le son avestique. Avesta, c'est le livre sacré de Zoroastre et c'est pour la religion zoroastrienne qui était la religion pré-islamique de l'Iran. Et donc, elle était auteure de théâtre à un moment donné dans les années 70, plus précisément en 1970. Peter Brook est venu en Iran et il avait un projet d'un théâtre fondé sur des sons et pas sur de la littérature. Donc, il a rencontré ma mère qui travaillait sur le son avestique, donc le son de la religion de Zoroastre, et lui a demandé de travailler avec ses acteurs sur ce son qui est très particulier parce que on dit que les mages zoroastriens convertissaient les gens rien qu'en chantant ces hymnes. C'est-à-dire, c'était pas le sens qui avait de l'importance, mais la façon de produire ces sons. Et ma mère a trouvé le son original de cette époque et elle a présenté ce son à Persepolis dans le spectacle de Peter Brook qui s'appelait Orgaste à Persepolis. Et le morceau qu'on va écouter, c'est le chant de l'aube, c'est le chant du coq, c'est pour le réveil des êtres, des quadrupèdes, des oiseaux. Et de tous les êtres vivants. C'est avec le lever du soleil que ça se chante.
Ce qu'elle dit, c'est que, et ce que vous écrivez, c'est que le son, ça a toujours été très important, autant que les mots dans votre travail. Et c'est assez beau ce que vous décrivez dans le livre « À l'écoute », c'est tout ce chemin à travers l'opéra et puis le musical dans les années 60 à Broadway. Vous dites même « Shakespeare, j'ai pu le monter parce que j'ai fait du musical dans les années 60 et ça m'a aidé à monter Shakespeare ».
Oui, c'est vrai. Mais là, ce que dit la fille de Madame Tajadod, Madame Tajadod était pour moi, comme il y a des moments clés dans la vie, une révélation. Et c'est, comme toujours, c'était pas d'elle, mais grâce à ces immenses études que personne d'autre n'avait faites sur le langage de Zoroastre, l'Avesta, un langage basé sur des syllabes, on avait déjà commencé nous-mêmes, dans des petits groupes, d'explorer les sons et on a créé par l'improvisation un tout petit langage à nous où un acteur regardait l'autre et disait quelque chose, mettait un certain son, et tout de suite l'autre le sentait, le comprenait tout de suite parce que ça touchait quelque chose. Et on a inventé le nom Bhashta Hondo, parce que c'était des mots comme Bhashta Hondo. Et c'est avec ça que je suis allé, avec des thèmes qu'on voulait explorer liés au lever du soleil, au coucher, des thèmes bibliques, et on voulait les voir à Persepolis en plein air avec le vrai soleil qui se lève, le vrai soleil qui se couche, avec tous les éléments et avec un public dans ce merveilleux vieux endroit où les pierres vibraient encore de leur grand passé. Et j'ai demandé à un merveilleux poète anglais, Ted Hughes, il a inventé ce langage auguste. Et il a créé un petit vocabulaire de, je ne sais pas, 400, 500 mots, pas plus, qui lui permettait de toucher tout ce que demandait l'histoire à raconter, les vieux mythes. On voit que pour lui, org, ça contient tout ce qu'on a dans les mots organiques, mais encore plus essentiel, org, organe, et pour lui, org, c'est le soleil. Ce qui de cette source nous rentre, sans quoi la planète ne pourrait pas survivre longtemps. On est en train de le mettre en danger maintenant, mais org, c'est le soleil. Et gast, c'est là encore, avec son oreille, toujours à l'écoute. Il a vu que dans la langue allemande, il y a un mot qui traverse beaucoup de langues, qui est Geist. Geist, l'esprit. Et on voit que ça devient en anglais the ghost. L'esprit, the Geist. Et en Allemagne, on dit l'esprit d'une époque, Zeitgeist. Alors il a mis ce mot qui résonne parce que c'est tout le temps en mouvement avec ce mot qui est toujours là, l'organe qui est la source et l'esprit.
On va finir juste par une invitation au voyage, Peter Brook, et c'est un message d'un metteur en scène à Ouagadougou qui s'appelle Aristide Tarnagda, et je crois qu'il vous invite à venir.
Je voudrais simplement remercier Peter Brook et puis lui rendre hommage au maître qu'il est, au phare qu'il est, et puis au guide qu'il est. C'est quelqu'un dont le travail nous nourrit, nous inspire, nous accompagne, et je voudrais simplement lui dire merci pour cela. J'ai été beaucoup marqué par l'espace vide qui vraiment m'accompagne tout au long de mon travail de metteur en scène. Donc voilà, et j'espère que je pourrai l'accueillir un jour à Ouagadougou, au récréatral, dans une cour familiale, avec les enfants, les femmes, les hommes, enfin bref, un public bigarré, populaire, autour d'une soirée partage, pour qu'il nous transmettre en live une causerie autour de lui, de son travail, ou animer un masterclass pour des artistes panafricains. Ce serait vraiment un honneur et un plaisir. Donc merci à lui de nous faire croire en la puissance du théâtre et de nourrir notre espérance. Merci, merci, merci.
Mais ce qui n'est pas jamais personnel et vraiment qui nous unit tous, c'est merci. Parce qu'en en anglais, thank you, c'est personnel. Merci plus ou moins dans le français d'aujourd'hui, on a perdu le sens biblique du mot, mais on trouve ça dans le mot gracias. Gracias, c'est la grâce qui nous traverse tous. Et on peut avoir comme de moments de gratitude partagée. Et c'est pour ça, cette interview, ce que vous faites gentiment là, est en même temps très dangereux si vous m'obligez à me prendre au sérieux. Alors, heureusement, nous avons reçu ce don du rire. Et alors, il faut dire gracias. Et d'ailleurs, dans why, il y a ce mot que la tragédie a toujours un sourire aux lèvres. Alors, nous et vos auditeurs, nous étions très bien ensemble et maintenant, on peut dire, pas pour toujours, c'est pas adieu, c'est au revoir avec gratitude et un sourire aux lèvres.
Merci beaucoup. Et c'est l'heure de retourner en répétition. Merci, Peter Brook.
Merci à vous.
On a commencé et fini par Villeurbanne. On aura entendu des voix d'Helsinki, de Ouagadougou et de Beyrouth. Et on aura fini avec le sourire, avec le silence, avec la gratitude. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, et à la technique ce soir, merci à Pierre Monteil et Tahar Bouklifa. On finira avec les mots de Peter Brook, faites silence. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, et c'est l'heure de la fiction.
Que llega el corazón. Oh, oh, oh.